Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
C'est une petite île au milieu de l'océan Pacifique. Son emplacement n'était même pas bien indiqué sur les cartes de Sa Majesté britannique lorsque Fletcher Christian et ce qu'il restait des révoltés du Bounty ont posé leurs bottes sur cette île de 5 km², 15 fois plus petite que Guernesey, mais située à près de 15 000 km de Buckingham Palace, une île volcanique, un paradis perdu entre le bien et le mal. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Pendant cette période de fête de fin d'année, je vous invite pour un voyage en 4 épisodes avec des auteurs qui ont raconté leurs aventures, des explorateurs des temps modernes, passés du papier à la voix. Premier épisode, un voyage dans le temps avec Olivier Goujon sur les traces des descendants du Bounty. Ça s'est passé le 28 avril 1789, quelques jours après le départ de Tahiti, Fletcher Christian, officier en second du Bounty, déclenche une mutinerie contre le capitaine Blee.
Je prends le commandement de ce navire. Monsieur Pryor, donnez-moi les clés du magasin d'armes.
Je vous interdis de les lui remettre. Descendez armer les hommes de camp.
Restez où vous êtes, Pryor. Vous avez donné vos derniers ordres, Bligh.
Des 28 hommes restés sur le bateau, ils ne seront plus que 9 et une poignée de Tahitiens, hommes et femmes, à débarquer sur Pitcairn. 232 ans plus tard, les descendants du Bounty continuent d'habiter sur ce bout de terre perdu au milieu de la mer. Pitcairn est le mythe des Vainé, de la douceur de vivre, de la tranquillité naturelle. Le rêve s'est effrité il y a quelques années lorsqu'un procès a dévoilé au grand jour les pratiques pédophiles de certains habitants et remis l'île sur les cartes du monde. Le paradis perdu l'est peut-être à jamais. Bonjour Olivier Goujon.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, reporter, photographe et vous publiez chez Max Milo, Pitcairn, Les révoltés du Bounty vont disparaître, un ouvrage passionnant sur l'histoire, mais aussi sur la vie de la cinquantaine d'habitants de Pitcairn et sur leur relation avec leur mère patrie. D'abord, pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce caillou d'origine volcanique situé à plus de 5000 km de la Nouvelle-Zélande ?
Pour le mythe, c'est un rêve d'enfant. Et puis voilà, j'avais deux rêves d'enfant, qui étaient un, aller à Pitcairn, et deux, faire du journalisme, du grand reportage. Et j'ai eu l'occasion un jour pour un grand magazine français, VSD en l'occurrence, on peut le citer, d'aller à Pitcairn, voir un petit peu ce que devenait cette petite nation au tournant des années 2010, après les événements qui avaient eu lieu dans les années 2000, dont on va parler sûrement. Voilà, au départ, c'est une île mythique, ça fait partie des grands mythes qui intéresse un peu tout le monde et sur lesquels on pense savoir quelque chose et en fait, on ignore énormément. Et donc voilà, c'est la réalisation d'un rêve d'enfant et puis l'intérêt journalistique.
Les enfants de ces dissidents qui se transmettent en partage depuis 8 générations l'héritage insolite d'une aventure ayant inspiré pas moins de 5 réalisateurs hollywoodiens revendiquent avec fierté l'appartenance à cette île coupée du monde, devenue leur patrie.
Pourquoi les révoltés du Bounty fascinent-ils encore aujourd'hui ?
Alors, il y a des raisons profondes à ça. Il y a le fait que dans notre monde occidental à nous, d'abord, ils représentent la révolte, hein, donc une part de l'âme humaine. Et puis, leur saga est une allégorie de la rédemption religieuse chrétienne, si vous voulez. C'est-à-dire que ils vont commettre un acte contre la loi en se révoltant, et puis après, ils vont fuir, ils vont être recherchés, ils vont arriver sur cette île perdus, mourants, enfin, pour certains d'entre eux. Et puis, la première chose qu'ils vont faire, c'est se battre entre eux. Donc, reproduire des schémas typiquement occidentaux qu'ils connaissaient. Enfin, voilà. Ils arrivent dans une espèce d'endroit qui pourrait être le paradis, puis ils commencent par le saccager. Alors, ils se battent, ils réussissent à fabriquer de l'alcool, ils décident que les terres vont être partagées entre les Anglais, mais que les Polynésiens qui étaient avec eux n'en auront pas. Donc, voilà, ils reproduisent un schéma typiquement occidental, humain, enfin, voilà. Il reste presque plus personne, il reste John Adams et puis les enfants. Et à partir de là, commence un parcours de rédemption. Et alors, c'est typiquement un mythe religieux. Donc, il y a quelque chose de fondamentalement occidental dans leur saga.
Vous écrivez « Mon île au trésor », et c'est vrai que pour y aller, il faut presque des trésors d'ingéniosité et d'abnégation.
Oui, c'est-à-dire que ça fait partie des endroits les plus isolés du monde encore aujourd'hui. Et alors, encore plus aujourd'hui, je dirais, avec le Covid et depuis 2 ans. Parce que là, du coup, l'île est complètement fermée, parce qu'ils n'ont pas eu de cas de Covid. C'est une île inaccessible. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'installent, hein, parce qu'ils découvrent, Fletcher Christian découvre quand ils aperçoivent l'île à la longue vue, qu'elle est située 200 miles plus au sud que sur les cartes anglaises. Donc les cartes anglaises se trompent. Alors si les cartes anglaises se trompent, ça veut dire que quand on va les rechercher, on ne va pas les trouver. C'est, ils seront cachés, hein. Ils seront 200 miles au sud. Donc ils s'installent là, parce que c'est une île complètement inhospitalière. Au début, ils ont essayé de s'installer à Tubuai, qui est une autre île, mais ils se sont fait éjecter par les des Maoris. C'est une île complètement perdue. Et encore aujourd'hui, moi, quand j'y suis allé, il y a un bateau qui va, qui fait une double rotation à partir de Mangareva, qui est déjà le bout du bout de la Polynésie française. Mangareva, on y va une fois par semaine de Tahiti. Puis là, il faut attendre un cargo qui vient de Nouvelle-Zélande et qui, en 3 jours et 3 nuits, qui sont parfois difficiles parce qu'on prend les houles de l'Antarctique. Enfin, c'est vraiment un voyage assez éprouvant. Et puis, au bout de 3 jours, un matin, on voit arriver Pitcairn. Et on peut y aller, en fait, 10 fois par an, quoi, hein. Et c'est ce bateau-là qui ravitaille les habitants de Pitcairn. Pendant des années, ils ont réclamé un petit aéroport. L'Angleterre leur a toujours refusé.
C'est une île où il y a de l'électricité, mais pas tout le temps. Internet, mais pas tout le temps. On sent une île qui hésite encore entre la nature et la civilisation.
Plus vraiment aujourd'hui. Ça a longtemps été le cas, vous avez raison. C'est un petit peu le hiatus de la construction de Pitcairn, c'est-à-dire qu'ils vont vivre en autarcie pendant 200 ans. Et puis, quand la mondialisation, entre guillemets, hein, les atteint, ils deviennent un village du monde, quoi. Et donc, c'est le paradoxe, ils sont à la fois très isolés, mais le soir, maintenant, à Pitcairn, vous pouvez voir PSGOM et puis boire du coca. Et puis, ils ne vivent plus du tout sur les cultures de l'île. Ils ne sont plus du tout autarciques. Ils sont dépendants. Et c'était aussi l'un des objectifs de la reprise en main coloniale de l'Angleterre suite au procès des années 2000. C'était de les rendre dépendants. Là, pour le coup, c'est parfaitement réussi. Donc, en fait, c'est une île évidemment ancré dans la nature, quoi, hein. On est au milieu des éléments qui vous dominent. En revanche, on y vit comme dans une banlieue tranquille d'Auckland ou de Canberra.
De quoi vivent justement les habitants? Quelle est l'économie de l'île? Auparavant, vous disiez, ils étaient quasiment en autarcie, mais et aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, ils dépendent à 90% des marchandises qui arrivent d'Angleterre, donc qui arrivent par le bateau, le Claymore.
Ils produisent plus rien.
Ils produisent, mais leurs productions sont contraintes, d'abord par les difficultés d'exporter des marchandises, et puis parce que, je vous dis, personne n'a vraiment ni envie ni intérêt à développer. Alors, j'explique dans la deuxième partie du livre pourquoi personne n'a intérêt à développer l'île, mais le fait est que les petites productions locales que sont la pêche, la culture du kiwi, le miel, voilà, ces productions-là sont vraiment hyper locales et puis destinées à quelques touristes qui viennent de temps en temps. Ou même si l'Angleterre dit qu'il y en a un, il n'y a pas vraiment de plan de développement économique à long terme, ils sont dépendants.
Et vous racontez, hein, on peut trouver de la noix de coco, de l'ananas, des agrumes, de la banane, de la papaye, il y a quand même pas mal de choses, hein, qui permettaient l'autosubsistance.
Oui, pendant des années, mais c'est plus le cas.
Le miel aussi est réputé comme l'un des plus purs du monde.
Ah, évidemment, les abeilles qui butinent à Pitcairn ne vivent qu'à Pitcairn. Il y a quelques miels comme ça dans le monde, Socotra, Pitcairn, qui sont des miels d'exception. Et oui, ça vaut le coup d'y aller juste pour ça, peut-être.
Il y a quand même quelque chose qui a assuré, à une époque, la fortune, ou en tout cas d'une partie des familles qui vivaient sur place. C'était les timbres. Racontez-moi ça.
C'est-à-dire qu'ils ont découvert au tournant du XXe siècle que le courrier timbré pouvait être une richesse. C'est-à-dire que les grands philatélistes au tournant du XXe siècle s'intéressaient aux timbres rares. Alors, c'était émis par l'Angleterre, hein, à ce moment-là. mais sur place, et un timbre estampillé Pitcairn, ça avait une valeur colossale, parce qu'évidemment, il y en avait peu. Et ça dure jusqu'au tournant des années 2000, jusqu'au 21e siècle. Évidemment, maintenant, on s'écrit beaucoup moins. Les timbres de Pitcairn, il y en a déjà pas mal chez les collectionneurs en circulation. Ça n'intéresse plus les touristes, puis on ne s'écrit pas, tout simplement. Internet est arrivé.
Il y a un chiffre qui résume assez bien cette perte d'activité et de richesse pour l'île. À la fin du XXe siècle, les timbres rapportaient 400 000 dollars de revenus par an, de quoi acheter du coca et de la bière néo-zélandaise, les deux boissons les plus consommées sur l'île. En 2012, cette activité présentait des comptes négatifs de 30 000 dollars, perte que n'arrivent pas à combler les ventes de sculptures, de cartes marines ou de t-shirts auprès des passagers de la grosse vingtaine de bateaux de croisière qui y passaient chaque année, à l'image de la compagnie Aranui, qui a déjà prévu, si ça vous intéresse, de nouvelles croisières en direction de Pitcairn en septembre et octobre prochain.
Sur l'itinéraire de la croisière, les îles Tuamotu, Gambier, Rapa, Rivave en passant par Pitcairn, une plaque commémorative et des pieds d'arbres à pin sont d'ailleurs destinés à la fameuse île des révoltés du Bounty.
Il y a eu jusqu'à 200 habitants au 19e siècle à Pitcairn. Ils sont quatre fois moins nombreux aujourd'hui. Pour quelles raisons ?
Alors, le clash de population, ça s'est produit au 19e quand une partie de la population, justement, a décidé d'émigrer à Norfolk, qui est une île proche de l'Australie, donc beaucoup plus facilement accessible, beaucoup plus facile à vivre également, parce que moins exposé aux éléments. Il y a des plages, il y a un petit port, enfin voilà. Bon, puis elle est un peu plus grande, Pitcairn, c'est tout petit. Et donc, à ce moment-là, ils sont restés à Pitcairn, je ne sais plus, 60, 70. Ils ont continué, malgré tout, à vivre de manière autarcique pendant encore plusieurs décennies. Aujourd'hui, alors l'idée, si vous voulez, aussi bien quand vous contactez l'ambassade, le bureau, le haut commissariat anglais, ou aussi bien ce qu'on vous dit sur place, c'est que de toute façon, Pitcairn, les Pitcairners ont résisté à toutes les prédictions dramatiques en matière de démographie. Ça fait des années qu'on dit qu'ils vont disparaître, puis ils sont toujours là. Mais c'est sûr, ils vont disparaître. C'est-à-dire que démographiquement, de toute façon, aujourd'hui, il y a plus d'hommes. Par exemple, il faut 3 hommes minimum de moins de 54 ans, je crois, pour mener le longboat, qui est le seul bateau de l'île commun. Ben, il y en a plus. Donc, ils sont obligés de le mener avec des hommes qui sont plus âgés. Enfin, si vous voulez, globalement, les vieux meurent, les enfants s'en vont. Donc, on n'inverse pas la machine comme ça. Il faudrait vraiment une décision politique de la part de l'Angleterre, que l'Angleterre dit avoir pris en apparence, si vous voulez. Mais la réalité, c'est qu'à Pitcairn, les gens sont repliés sur leurs prérogatives. Ils veulent pas faire de place aux nouveaux arrivants. Et puis, l'Angleterre, de son côté, a pas vraiment intérêt à maintenir la petite nation Pitcairner. Elle a un intérêt stratégique et diplomatique à maintenir son autorité coloniale sur Pitcairn, mais pas à maintenir une nation Pitcairner originale.
Olivier, cela dit, vivre à l'écart du monde sur une île grande comme ma poche, faut avoir envie. Qui voudrait y habiter ?
Justement, aussi bien du côté de l'administration anglaise que du côté des Pitcairners, on dit que les conditions de vie sont tellement difficiles, tout ça, que en fait, personne ne veut venir. Ce n'est pas vrai. Ils ont des centaines de demandes par an. Et aujourd'hui, c'est plutôt ailleurs, dans les grandes villes. Et puis le Covid a ajouté encore à ça. Je veux dire, des gens qui rêvent de s'immerger dans la nature, d'avoir une vie au contact des éléments, peut-être même de retrouver une forme de spiritualité, pourquoi pas. Enfin, bon, pour la faire simple, des gens qui rêvent d'aller à Pitcairn, il y en a partout dans le monde. Donc, on ne peut pas imaginer que personne ne veuille s'installer à Pitcairn. Il faut au contraire juste comprendre que d'un côté, l'Angleterre n'a pas vraiment intérêt à développer la nation Pitcairner, et les Pitcairners, eux, sont repliés sur leurs prérogatives, ils ne veulent pas partager. Et il n'y a pas de médiation intermédiaire pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. Alors, il y a des exemples, je raconte l'exemple des Johansson, je raconte l'exemple d'un couple de Leipzig, enfin, qui viennent s'installer, mais ils repartent. Ils repartent parce que, effectivement, la vie n'est pas simple, donc si en plus on ne vous facilite pas les choses, voilà.
Le chant des adieux de Tahiti, c'est une chanson triste, hein, loin et en même temps si près de Tahiti. L'île de Pitcairn va se retrouver au cœur d'une affaire sordide qui va mettre l'île au centre du monde médiatique et judiciaire. Des viols massifs répétés sur les jeunes filles par sept hommes. Olivier Goujon, vous écrivez « Descendre en droite ligne de la grande histoire et de l'aventure ne protège pas des passions tristes. Depuis ces révélations, la vie n'est plus tout à fait la même à Pitcairn. L'image du paradis s'est écaillée. »
Oui, Ah bah oui, ça a été le point de rupture. C'est à partir de là qu'on peut dater la glissade vers l'enfer de Pitcairn, on peut dire ça comme ça. Enfin, mais là encore, c'est une situation qu'on découvre au tournant des années 2000, mais qui préexiste. On sait aujourd'hui que l'administration anglaise, qui s'occupait de Pitcairn de loin en loin, enfin distraitement disons, était au courant de plaintes, de témoignages d'enseignants, par exemple, néo-zélandais ou australiens qui voyageaient dans l'île ou qui étaient en poste pour l'école, qui écrivaient, qui racontaient un petit peu ce qui se passait. On savait, si vous voulez, puis il suffisait de consulter le registre des mariages de Pitcairn pour comprendre qu'aucune jeune fille n'arrivait vierge à l'âge de 12 ans. Et ça, c'est ce qu'on a réussi à démontrer. Mais bon, on sait qu'il y a des cas de viol sur des enfants de 3, 4, 5 ans. Et donc voilà, c'est la mort de Pitcairn. Ça commence là.
Vous racontez les procès, les arguties juridiques de la défense, de l'accusation, les pressions familiales sur les victimes. On va pas le temps d'aborder tout ça. Je vous invite à lire vraiment le livre d'Olivier Goujon. Olivier, les scandales sexuels ont laissé une île divisée presque clanique.
Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, la force de Pitcairn pendant des années, c'était que les éléments, la difficulté de vivre dans l'île obligeait les gens à vivre ensemble. À Pitcairn, il y a un dicton qui dit « Si mon pire ennemi se noie, je dois le sauver parce que j'ai besoin de lui. » Et en fait, c'est très vrai. Les gens dépendaient les uns des autres et leur survie dépendait de leur nombre et de leur entraide. Mais ça a une limite. Et la limite, c'est un certain confort matériel qui permet l'enrichissement, le développement individuel. Voilà. Et à partir du moment où ça s'est assuré, si vous voulez, ben on retrouve des schémas de développement qui sont beaucoup plus communs, quoi, individualistes. Quoi.
Aujourd'hui, il n'y a pas de plan de développement économique de l'île.
Oui,
pour
il y en a un. C'est-à-dire que l'Angleterre dit qu'il y en a un. Non, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a un en apparence, mais par exemple, le commissariat dit qu'ils ont... ils disent pas le chiffre exact, hein, mais enfin, on peut estimer à plusieurs centaines de demandes d'installation à Pitcairn qui sont systématiquement refusées. Il y a eu deux ou trois cas d'installation. À chaque fois, les gens sont repartis. En fait, si vous voulez, l'idée, c'est que l'Angleterre a un intérêt stratégique, diplomatique à maintenir Pitcairn, parce que c'est une base, par exemple, après le Brexit, l'Angleterre va développer des accords commerciaux dans la zone Pacifique. Et ce qui permet ça, c'est Pitcairn, parce que Pitcairn est la seule possession britannique dans l'océan Pacifique. Il n'y a rien d'autre. Donc, à partir de là, ça ouvre des possibilités diplomatiques, commerciales, politiques. En revanche, le développement, ce que je disais tout à l'heure, le développement de la petite nation pitcairnaire, ça n'intéresse personne. Au contraire, on peut même considérer que moralement, si vous voulez, 230 ans après, l'Angleterre punit les mutins en les laissant mourir.
Il y a une volonté aussi de développer une activité touristique dans la région. J'imagine que les affaires judiciaires n'aident pas là non plus.
Non, mais si vous voulez, voilà. Alors, ce qui pourrait intéresser l'Angleterre, c'est dans cet esprit-là qu'on a créé le parc, la réserve marine autour de Pitcairn. Ce qui peut intéresser l'Angleterre, si vous voulez, c'est un tourisme pour milliardaires avec des bateaux à fond de verre, des zones de plongée, pas de palace, si vous voulez, mais un tourisme régulé pour milliardaires. Mais ça, c'est la mort de la population locale. Ce qu'il faudrait, c'est un plan de développement qui facilite l'industrie, la petite industrie locale, l'artisanat, voilà, qui préserve certaines valeurs qui n'ont plus cours à Pitcairn, mais qui ont eu cours pendant longtemps, et qui fasse revenir vraiment des gens dans l'île pour développer la petite industrie locale, pas des opérateurs touristiques qui vont gérer des intérêts financiers qui ne vont pas du tout concerner l'île.
Vous racontez qu'ils n'aiment pas forcément les journalistes, ils n'ont pas eu de très bonnes...
Surtout après les événements des années 2000.
Pourquoi est-ce qu'ils se sont confiés à vous ?
Parce que j'étais sur place. J'ai réussi à y aller. Donc après, c'est toujours pareil, si vous voulez. Ils n'aiment pas les journalistes parce qu'ils n'aiment pas la publicité qui a été faite autour des procès dans les années 2000. Donc évidemment, si vous voulez, on accuse le moyen au lieu de s'intéresser au fond de l'affaire. Et le moyen de diffusion de l'affaire, ça a été la presse. Donc on s'en est pris à la presse. Donc, ils n'aiment pas les journalistes pour ça. Après, une fois qu'on est sur place, je veux dire, on parle avec des êtres humains et les êtres humains sont complexes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les mêmes personnes qui se sont rendues coupables d'actes monstrueux sur des enfants peuvent se montrer bienveillants pour vous faire découvrir l'île, pour vous emmener à la pêche, pour que sais-je. Donc, et au bout d'un moment, de toute façon, on parle, quoi, puisque ça imprègne leur être profond. Et moi, j'ai logé chez une femme qui a été l'une des victimes de cette situation, qui a été violée quand elle était enfant. Et puis, elle a retiré son témoignage, par exemple. Et elle m'a dit pourquoi. Et en fait, c'est quoi une victoire? Est-ce que la victoire, c'était aller au bout du procès et puis vivre misérablement dans une banlieue d'Auckland après? Ou est-ce que c'était ce qui était son objectif à elle, retrouver une famille et vivre à Pitcairn en bonne harmonie avec les autres? Quelle était la meilleure voie pour elle? Et elle a choisi de se réintégrer à Pitcairn. Et malgré tout, elle est contente que l'affaire ait eu une résonance internationale.
De façon à ce que ça ne se reproduise plus, j'imagine.
Exactement.
230 ans après la mutinerie, qu'est-ce qui reste du Bounty?
Oh ben rien. Alors, chez moi à Paris, un clou. Parce qu'il y a, sur le petit sentier qui mène à Christian Cave, qui est une grotte où Fletcher Christian allait méditer, on trouve encore, voilà, parce qu'on construisait des abris, enfin voilà, donc on trouve encore quelques vestiges de la Bounty. Et puis, un canon qui a été sauvé du désastre. Parce qu'il faut comprendre que quand ils sont arrivés sur Pitcairn, ils ont compris tout de suite qu'il n'y avait pas d'endroit où ils pourraient cacher le bateau, comme à Toubouaï, ils avaient essayé auparavant. Et donc, il a fallu brûler le bateau. Ça s'est fait dans des conditions un peu dramatiques. Il y avait des gens qui voulaient brûler le bateau, d'autres qui ne voulaient pas. Enfin, voilà. Et puis, tout le monde a été surpris par l'incendie de la Bounty. Enfin, c'est raconté dans les films, ça. Et donc, on a sauvé peu de matériel. Donc, il ne reste pas grand-chose. Et puis, il reste, voilà, après, au bout du bout de l'histoire, il restera le mythe.
Merci Olivier Goujon, auteur de Pitcairn, Les révoltés du Bounty vont disparaître chez Max Milo. L'occasion peut-être de revoir bientôt ce monument du cinéma hollywoodien des années 60 avec Marlon Brando dans le rôle de Fletcher Christian.
Fletcher Christian is my name.
Is my name?
No, no, no. Fletcher.
No, no. Fletcher.
Un Marlon Brando qui finira par succomber au charme de la Polynésie. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Demain, direction la Corée du Nord pour une course pas comme les autres.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.